un vaste sujet, en effet. Je te remercie d'avoir, nous avoir parlé de... On ne s'attendait pas tout à fait à ça. Je veux dire que je pense que le public pensait qu'on allait résoudre le problème de l'intelligence chez les singes.
Bah, ils sont intelligents aussi, voilà, quand même.
Mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, on nous a montré quelles étaient les expérimentations qui étaient faites. Et aussi ce travail de Boutan, comme tu le disais, qui était assez peu connu. Mmh. Et aussi les analogies que tu as faites entre en effet la manière d'appréhender l'animal. Est-ce que la manière d'appréhender l'animal est culturelle? Ça, c'est très intéressant par rapport en effet aux pays anglo-saxons ou en France où on est plus on a des positionnements différents. Et puis bon, vraiment c'est un sacré boulot. Bon, merci beaucoup Marion Thomas, et puis je passe la parole à la salle. On a peu de temps parce qu'on a une conférence après, et de toute façon, je savais qu'on ne répondrait pas à la question. C'était un petit peu la provocation, ce que je te disais, parce qu'il était bien évident.
Si, si, mais
bien évident qu'on ne répond pas à la question. Et ce que tu montres, c'est la manière dont on cherche, en effet, à y répondre. Et aussi toutes ces écoles qui sont mises en place et qu'on méconnaît complètement. Hein. Je veux dire, on parle. Voilà. Donc, merci beaucoup. Y a-t-il des questions?
On en est où maintenant?
Voilà.
Ah, alors, je crois. La question du langage animal a fait beaucoup de... Enfin, a été l'objet de nombreux travaux avec les... Pourquoi je me trompe Washoe, les Parker aux États-Unis. Et ça, c'était dans les années 70-80. On essayait de chercher tout le langage symbolique de ces chimpanzés, enfin, mettre en évidence l'existence d'un langage. Et depuis les années 90-80, ce sujet a été quand même assez abandonné par les primatologues. Hein. Mais il y a un très bel ouvrage sur cette question-là. Bon, c'est un pavé, c'est 500 pages d'un historien, rédigé par un historien britannique, sur cette question du langage animal, et il montre comment, ça s'arrête, qu'il y a dans les années 80 une convergence en fait entre les psychologues et les éthologistes, parce qu'il y a combinaison donc d'approches de laboratoire et de terrain, que cette question va vraiment les occuper, mais abandon, enfin à ma connaissance de cette question depuis une quinzaine d'années sur le langage animal. Enfin, il n'y a plus de programmes de recherche aussi importants que ceux qui ont été donc développés autour dans les années 70-80.
Sur le langage, mais
oui, sur le langage. L'intelligence, je ne sais pas. Je suis pas sûre qu'il y ait. Parce que là, il y a vraiment une conjonction d'études. Donc, il y a surtout. Le primatologue Yorkis va vraiment montrer le comportement d'idéation donc en 1916, en même temps que Keller, en fait, c'est 1914, donc il pose cette existence d'une capacité de compréhension, donc d'insight ou d'idéation pour Yorkis. Mais depuis, non, c'est surtout, je pense, la notion de langage et de culture animale. C'est vraiment là, davantage que intelligence, c'est un petit peu trop vague. Là, on était. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des. Enfin, je ne peux pas non plus l'affirmer, mais cette question n'est plus, pour un éthologue actuel, elle est plus pertinente, je pense. Il la poserait autrement. Surtout, il la poserait, cette question des cultures animales. Ça,
Qu'est-ce que vous entendez par culture animale?
Ben, le fait que, par exemple, l'exemple le plus important, c'est cette idée du cassage de noix. Comment donc la capacité d'une mère de transmettre à son enfant un savoir-faire, ou de capacité aussi de savoir planter une tige pour récupérer des termites Et il y a aussi toutes les études sur le terrain. Bon, avec là, c'est Jane Goodell et toute cette tradition. D'aller montrer sur le terrain qu'il existe des cultures animales, qu'il existe des comportements intelligents in the field, et là on est loin de ces justifications. C'est pour servir davantage la psychologie tout court, montrer que ça marche. C'est là que le modèle animal peut-être est instrumentalisé pour dire ça marche. Regardez, on arrive en laboratoire à montrer un comportement intelligent chez des singes. Donc, la psychologie est une science qui s'appuie sur des modèles animaux, est une science et scientifique. Donc, c'est davantage. C'était une de mes hypothèses aussi dans mon travail de thèse, de montrer que, en France, en tous les cas, la psychologie animale était une espèce de tremplin pour que s'affirme la psychologie humaine. Donc tout ce qui est valable sur les animaux est valable ensuite sur l'homme. Donc c'est toute cette tradition aussi presque bernardienne, Claude Bernard.
Quand on pense aux neurosciences,
que c'est totalement obsolète.
C'est pas une question d'obsolète. Vous avez abordé la question de point de vue historique.
Oui, mais l'histoire n'est pas obsolète.
Non, puisque c'est historique, c'est pas obsolète. Oui. C'est la question que vous êtes posée, c'est l'histoire au début du XXe siècle. Oui. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Je suis pas très bien passé parce que je travaille sur les rongeurs, mais il faudrait définir déjà ce que c'est que l'intelligence pour répondre à la question. Oui. Et ça, c'est une question extrêmement difficile. Mais si on définit l'intelligence par l'apathie, la coopération, la conscience de soi, la projection dans l'avenir, alors la réponse est oui à tout cela. Parce que les primates sont capables de tout cela.
Ouais.
Si on définit l'intelligence telle que ma collègue l'a définie, à savoir le langage, parce que le langage va donner accès à l'abstraction, alors bien évidemment, il n'y a que nous qui avons accès au langage tel qu'on l'entend. Je ne suis pas certain que la définition initiale, à savoir langage, donc abstraction, donc intelligence, en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas du tout la voie qui est empruntée par les chercheurs. Il faut dire, là c'est abordé le point de vue historien, il faut dire que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de, ça fait 50 ans maintenant, il y a eu un bond énorme dans les études de comportement animal et pour répondre à ce type de questions. Je serais tenté par dire que, du moins chez les primates, il y a de nombreux signes d'intelligence.
Non, mais c'est vrai, j'aurais peut-être dû intelligent, doué de raison peut-être. C'est tous ces termes équivalents, vous voyez, c'est sûr que là c'est un terme un petit, vous avez raison de le reprendre, un peu fourre-tout. Capacité de langage, capacité d'abstraction, articulation des idées, idéation, que là je ne sais même, c'est traduit en anglais par, j'avoue je ne sais pas en allemand comment il le dit, mais... mentalité, je crois, des singes, encore un autre concept. Donc si, c'est ça, c'est mentalité, et donc tous ces termes que j'ai regroupés sur un peu cette grosse ce terme fourre-tout intelligent, oui, c'est peut-être un peu facile. Oui, vous avez raison de le reprendre. Oui.
Non, c'est la question que m'a posée, mais sur un point de vue aussi strictement biologique.
Oui.
Si on parle de génétique, on partage, comme tout le monde sait maintenant, plus de 98% de nos gènes avec certaines espèces de cellules. Et au point de vue anatomique et organisationnel, on a un cerveau qui, finalement, ressemble beaucoup au cerveau de primates. Ce qui nous distingue surtout, c'est notre cortex frontal, mais le reste, c'est quasi identique. C'est pour ça que nombreux de mes collègues font de l'expérimentation animale chez le singe avant de pratiquer quoi que ce soit chez l'homme. Donc, la frontière, elle est là, elle existe, bien entendu. On voit très bien le décalage énorme entre les espèces, c'est vraiment l'attitude de dire ça, mais plusieurs animaux, pas seulement les singes, sont capables d'actions qu'on qualifierait d'intelligentes. Et pas en dehors du mimétisme, bien entendu, quand vous avez parlé d'animaux savants, c'est effectivement du mimétisme ou bien du conditionnement.
Du conditionnement, oui.
Pas
oui, c'était du conditionnement, pas plus rien. Oui.
Le doctorat SHES, pardon, Mohamed Jaber est professeur en neurosciences.
Oui.
Voilà. Sur l'éclairage et le regard
d'où, voilà. Donc, d'où l'intérêt aussi que tu as montré pour l'analogie entre les enfants et les singes. Savoir que les enfants, à cette époque, on considérait que l'enfant, en effet, était malléable. Tu le montres bien aussi dans tes articles. Et il y a une analogie entre l'éducation que l'on fait à l'enfant et puis quelqu'un, un petit être peut-être qui n'a pas encore doué de raison, qu'on peut éduquer quand même. Et on peut éduquer aussi l'animal comme on éduque un enfant. Je veux dire, une espèce d'analogie étrange là, qui fait un peu peur d'ailleurs. entre une espèce de barrage d'espèces là, qu'on passe. Mais ça c'est aussi c'est très intéressant. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, excusez-moi, je suis lente.
Oui, c'est une question élémentaire, mais qu'est-ce que devient l'instinct dans cette histoire-là?
Qu'est-ce que vient
l'instinct?
C'est cette grosse, cette grande opposition instinct intelligence, instinct comportement inné, intelligence comportement acquis. Là, quand on lit le chez Guillaume Meyerson, ils ont l'impression que c'est l'actualisation de quelque chose qui serait inné, naturel. Parce que pour eux, c'est quand même ça l'intelligence et enfin ou ce comportement. Mais on est que dans, enfin pour moi, on est que dans de l'acquis, que dans, il n'y a rien de, c'est vraiment des, c'est l'apprentissage. Donc moi, je l'opposerais aux études justement sur de l'instinct faites par Lorenz, qui va justement critiquer tous ces psychologues pour dire mais eux, ils étudient l'apprentissage, des comportements acquis. Moi, je ne m'intéresse qu'au schéma instinctif parce que je veux établir des arbres généalogiques, phylogénétiques avec. Comme un anatomiste étudie les organes ou les différentes pièces anatomiques, moi j'étudie l'instinct, le comportement qui se déploie de manière enfin, systématique en fonction d'un stimulus précis, etc. Donc là on est dans, enfin, si on veut, oui, on est dans la part l'opposé. Et tous les behavior, enfin, même si ce ne sont pas des behavioristes, mais. C'est quand même l'idée que l'instinct, c'est plus un objet d'étude. Pour eux, c'est, on l'enlève du laboratoire. C'est, on ne pourra pas. Non, déjà, on n'est pas dans le lieu où. C'est quand même que l'instinct se déploie dans un milieu naturel, sans contrainte. Et, alors que là, on est dans des situations conditionnées, contraintes. Même si, pour justement. C'est l'instinct naturel, c'est là où il y a peut-être ils veulent à chaque fois revenir sur des, mais ça c'est des rhétoriques de, que j'ai voulu montrer quand même pour dire c'est spontané, c'est naturel. En fait non, c'est complètement acquis et acculturé, on pourrait presque, enfin c'est devenu une seconde nature, ou alors une seconde nature, mais ça serait un peu jouer sur les mots. Mais
oui, bon, là ça devient difficile parce qu'on voit toujours. Enfin, on sent que les marges se chevauchent, et finalement, c'est plus trop de quoi on parle. Enfin, moi, j'ai l'impression.
C'est plutôt.
J'ai l'impression que les marges, c'est le signifiant, se chevauchent, oui. Et finalement, c'est plus trop de quoi on parle. Hein, c'est.
Oui, 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 mais c'est vrai, oui. Mais peut-être que ces grandes catégories, donc instinct, intelligence, elles sont justement. Enfin, c'est ce que je voulais un petit peu aussi montrer, c'est que. La frontière est floue et c'est chaque scientifique la redéfinit un petit peu à sa manière, de même que Lorenz, pour citer celui qui donc se prétend Conrad Lorenz, hein, étudier les instincts, il étudie des animaux dans son aussi dans son domicile, ces oies qui sont là dans son jardin ou chez lui, et il dit c'est un comportement stéréotypé de l'oie que j'étudie, hein, donc un comportement inné. Donc sa définition du naturel, elle est aussi. Il faut bien voir il faut voir précisément ce qu'il entend par naturel. C'est une catégorie trop forte pour ne pas chercher à voir derrière ce qui s'y cache. Donc,
est-ce que la théorie de Haeckel a connu des développements ultérieurs, je dirais plus élaborés en quelque sorte? Vous savez pas si. Ouais. Parce qu'elle me paraît intéressante, c'est pour ça que je demande.
Oui, cette idée de la récapitulation, ben, elle est très, effectivement très séduisante et très enfin, elle se veut universelle et très.
Englobante.
Oui, englobante, oui. Et correspond à cette idée des archétypes aussi, c'est toute la philosophie naturelle allemande, bon, qu'elle est encore des. Je ne sais pas si on peut encore. Chercher ces grands plans d'organisation du vivant et ces grands plans de développement, c'est une bonne question, mais j'aurais du mal à y répondre. C'est vrai que. C'est une question pour Stéphane Schmitt, peut-être, qui est spécialiste de cette question. Avec,
Bon, donc on va finir sur cette belle question. Moi, je voulais t'en poser une, mais bon, c'est la fin. C'est-à-dire, de toute façon, on organisera des journées d'études, hein, sur l'homme et l'animal, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
je pense, je me demandais à partir de quel moment on pense la souffrance animale. Hein. Là, tu n'en as absolument pas parlé, mais c'est normal parce que c'est de l'expérimentation, c'est balisé, mais bon, quid de la souffrance de l'animal. Voilà. Donc, mais ça, on en reparlera, Marion.
Oui, 19e siècle, oui.
Oui.
Oui. Enfin, voilà. C'est là, il y a une prise de conscience importante.
Merci à tous. Je vous dis au 10 février, c'est ça, Yannick ? Oui. Voilà pour la conférence. On termine une conférence sur les femmes et les sciences de l'homme. Donc, messieurs, vous êtes les bienvenus aussi, bien entendu. Voilà, merci à tous. Bonsoir.